les podcasts de Radio Vatican.
Les Libyens doivent décider seuls ce qui est bon pour eux. Dans une interview publiée ce dimanche 5 février dans le JDD en France, le maréchal libyen Khalifa Haftar se montre une nouvelle fois de plus critique face à la communauté internationale. Homme fort de l'est du pays, Khalifa Haftar ne ménage pas ses critiques envers le représentant de l'ONU pour la Libye. Le pays, miné par les divisions depuis la chute de Muammar Kadhafi, peine à mettre en œuvre l'accord signé en décembre 2015 pour faciliter la transition politique et dont l'objectif était l'élaboration d'une nouvelle constitution. Les Nations Unies ont en effet sous-estimé la complexité de la situation et imposé un accord qui ne tient pas suffisamment compte des composantes de la société libyenne. C'est ce que nous explique Monsef Jaziri, spécialiste du dossier libyen à l'Institut d'études politiques et internationales de l'Université de Lausanne.
Plusieurs raisons pour lesquelles cet accord est difficilement, voire totalement inapplicable. D'abord, les signataires n'ont aucune influence réelle dans la société libyenne. Deuxième élément, c'est que l'accord est trop compliqué, en quelque sorte, il est trop sophistiqué et donc très mal adapté à la situation libyenne qui requiert au fond des solutions beaucoup plus simples pour sortir de la crise. Et enfin, cet accord est perçu, en fait, par les différents acteurs, aussi bien d'ailleurs à l'Est qu'à l'Ouest, comme ayant été imposé par l'étranger, pour ne pas dire comme étant un accord en quelque sorte colonial.
Quand vous parlez de solutions qui seraient beaucoup plus simples, qu'est-ce que vous entendez par là?
Cet accord politique, il est trop sophistiqué, puisque, par exemple, il crée deux chambres, deux parlements, un à Tobrouk, et un à Tripoli, qui est donc d'un côté la Chambre des représentants à l'Est et le Haut Conseil d'État à Tripoli. La création de ces deux chambres, ça ne correspond pas à la réalité libyenne, car c'est un facteur de paralysie. D'autre part, l'accord politique crée un exécutif qui est au fond un exécutif où il y a une confusion du pouvoir, c'est-à-dire vous avez d'un côté un conseil présidentiel, en même temps un gouvernement. Et le gouvernement et le conseil présidentiel sont confondus en quelque sorte et il n'y a pas de séparation entre eux. Et enfin, ce fameux conseil présidentiel est constitué de 9 personnes qui en principe devraient travailler de manière consensuelle, mais comme étant donné les conflits qu'il y a entre l'Est et l'Ouest et le Sud, et que donc ce conseil présidentiel est censé représenter les 3 partis et que les divergences sont telles que ce conseil présidentiel est lui-même paralysé.
Cela veut dire que les Nations Unies et la communauté internationale ont sous-estimé la structure actuelle de la société libyenne?
Ça veut dire effectivement que l'Organisation des Nations Unies, si vous voulez, a sous-estimé la complexité de la situation libyenne. Ça veut dire aussi que le système des Nations Unies a une perception erronée de la réalité. Et je crois d'abord qu'il faut, la première chose, c'est que les Nations Unies doivent revenir à une position de neutralité. L'Organisation des Nations Unies s'est trop impliquée dans une solution qui est une solution qui est rejetée par une grande partie des élites sociales et politiques en Libye.
Tout à l'heure, vous avez parlé du manque de représentativité des parties libyennes dans le dialogue. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que l'on reproduise les mêmes erreurs qu'avec la Syrie, où on sait que les premières discussions de dialogue politique mettaient autour de la table des Syriens exilés de l'étranger qui étaient accusés par les Syriens restés dans le pays de ne pas être légitimes? Est-ce qu'il y a ce risque également aussi en Libye?
L'accord n'est pas contestable en soi. C'est clair qu'il faut arriver à mettre les acteurs autour de la table pour arriver à une solution. Le problème est de savoir quels sont les acteurs pertinents, si vous voulez. Quels sont les acteurs qui ont un poids réel dans la société et avec lesquels il faut compter et pour que l'accord soit applicable et appliqué. Il faut savoir quels sont les acteurs pertinents. Et je crois, parmi les acteurs pertinents, ce sont les représentants des tribus. Parce que les tribus demeurent des organisations qui ont un poids réel dans la société. Et bien entendu, rien ne peut se faire, c'est très clair, sans des représentants de l'Est du pays. Et je dois vous le dire également, parce que ça ne se dit pas beaucoup, rien ne peut se faire sans que les anciens kadhafistes ne soient d'une manière ou d'une autre impliqués dans le processus politique, sans quoi aucune solution ne sera fiable en Libye.
Une récente initiative tripartite menée par l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie, les pays voisins de la Libye, a été proposée justement pour trouver une solution. Elle doit déboucher notamment sur un sommet de chefs d'État prochainement sur le dossier libyen. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu en quoi consiste cette initiative ?
Elle va dans le sens, sinon un nouvel accord, en tout cas des réformes dans l'accord actuel. Et elle part de l'intention qu'il faut un dialogue inter-libyen, un dialogue où les puissances étrangères ne doivent pas s'immiscer dans les affaires. Alors bon, c'est une formule, parce qu'en même temps, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte sont bien des pays étrangers à la Libye. Donc, les contours de cette initiative tripartite sont les suivants. Un, il faut un nouveau président du conseil présidentiel. Il faut également revenir à la solution, un président et deux vice-présidents, et non pas 8 vice-présidents. Troisièmement, il faut un gouvernement constitué de ministres technocrates qui doivent résoudre les problèmes urgents du pays. Quatrièmement, il faut un commandement en chef de l'armée qui soit sous la responsabilité de la Chambre des représentants, c'est-à-dire le Parlement à Tobrouk.
Si cette situation perdure et que le pays n'arrive pas à sortir de l'impasse, quelles seront les conséquences pour l'Europe, en particulier sur la rive nord de la Méditerranée ?
Les conséquences sont considérables. D'abord sur le plan énergétique, c'est-à-dire que là, l'Europe se priverait de ressources à la fois gazières et de pétrole. Deuxièmement, le problème de migration. Il y aura des problèmes considérables de mouvements migratoires vers l'Europe. Troisièmement, c'est de toute évidence une déstabilisation des autres pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie. Et enfin, je dirais une déstabilisation du reste de l'Afrique.